question pour vous. Y aura-t-il une guerre mondiale à laquelle tous les pays prendront part un jour? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui en étonnera plusieurs. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue notre étude passionnante du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre les réponses aux questions que voici. Qu'est-ce qu'on doit conclure de la description des sauterelles dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce qu'il existe une hiérarchie chez les démons? Quelle est la fonction de l'autel d'or décrit dans l'Apocalypse? Dans ce même livre, qui sont les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate? Qu'est-ce que l'Apocalypse nous enseigne au sujet de l'Orient et de l'Occident? Quel est le pourcentage des hommes qui seront détruits au début de la grande tribulation? Y aura-t-il une guerre mondiale à laquelle tous les pays prendront part un jour? Qui fera la guerre à l'humanité pendant la grande tribulation? Pourquoi les hommes trouvent-ils que le livre de l'Apocalypse est si difficile à comprendre et à interpréter? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu nous annonces plein de choses dans le livre de l'Apocalypse. Aide-nous, donne-nous des cœurs qui sont dociles à ta parole, qui veulent s'empresser de mettre en pratique ce que tu nous enseignes, qui veulent être avec toi pour l'éternité. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Des créatures énigmatiques et terrifiantes. Lisons Apocalypse, chapitre 9, versets 7 à 10. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. La description de ces insectes est bien sûr effarante et bizarre, comme si la nature avait enfanté le mal sous sa forme la plus terrible. Mais, en y regardant de plus près, cette description se rapproche assez des sauterelles qu'on trouve en Palestine. Monsieur Vincent énonce ce commentaire intéressant dans son livre sur l'Apocalypse. La similarité entre la sauterelle et le cheval, tout particulièrement avec un cheval équipé d'une armure, est à ce point frappante que l'insecte est appelé en allemand « Hepard », c'est-à-dire un cheval à foin, et en italien « cavalletta », c'est-à-dire un petit cheval. Par contre, les sauterelles de l'Apocalypse ont une face d'homme et leurs antennes sont comparées à des cheveux de femme. Le prophète Joël compare leurs dents à celles d'un lion dans Joël chapitre 1, verset 6. Plusieurs commentateurs se sont attardés sur le curieux son qu'émettent les sauterelles. L'écrivain français Olivier relate « Il est difficile d'exprimer l'effet produit sur nous. À la vue d'un ciel rempli de tous côtés et, à une grande hauteur, d'une quantité innombrable de ces insectes. Leur vol est lent et uniforme, et le bruit qu'ils émettent ressemble à celui de la pluie. Les descriptions vivides des créatures de l'Apocalypse stimulent l'imagination. Ces récits nous rappellent parfois des instruments conçus par la technologie moderne. Il est alors facile de tomber dans le sensationnalisme. Certaines personnes ont fait valoir que les sauterelles de l'apôtre Jean étaient une vision de nos avions ou de nos hélicoptères. Quelqu'un a déjà dit que, puisque la piqûre de la sauterelle se trouve dans la queue, il devait s'agir d'un bombardier. La piqûre est alors le mitrailleur situé dans la queue de l'aéroplane. Évidemment, cela suppose que le temps de la grande tribulation est pour bientôt. car en seulement un siècle, nous sommes passés de l'avion à hélice à l'avion réaction pour enfin utiliser des fusées. Mais, je le répète, rien ne prouve que les événements décrits ici auront lieu pendant notre séjour sur Terre. Et si ces terrifiantes créatures représentent effectivement des armes, ce qui n'est pas prouvé, nous ne savons pas à quoi ces armes ressembleront au temps de la grande tribulation. Libre à vous de croire que ces sauterelles sont des hélicoptères ou des missiles. Personnellement, je trouve cette idée risquée, puisque nous n'avons probablement aucune idée des armes qui seront alors utilisées. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Pendant 5 mois, les gens atteints par le dard de ces démoniaques sauterelles souffriront d'une intense et indescriptible douleur. L'identité de leur roi. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Dans le monde naturel, les sauterelles n'ont pas de roi, comme on l'a déjà vu dans Proverbe 30, verset 27. Le nom hébreu Abaddon signifie littéralement « destruction ». Or, dans l'Ancien Testament, il est utilisé à plusieurs endroits comme synonyme de Sheol, que nous avons identifié comme le séjour des morts. Ainsi, dans le livre de Job, chapitre 26, verset 6, nous pouvons lire « Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. » Et dans Proverbe 15, verset 11, « Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. » On pourrait donc s'attendre à ce que l'apôtre Jean utilise le mot grec pour « destruction » qui est « apoléa ». Mais, au lieu de cela, il lui préfère « apollyon », qui est le participe présent du verbe « détruire ». Il peut y avoir deux raisons à cela. Premièrement, il peut s'agir d'une autre référence à la dernière plaie d'Égypte, lorsque l'ange destructeur est passé dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Dans l'Apocalypse, cet ange sera alors un des principaux lieutenants de Satan. Le livre de Daniel et l'épître aux Éphésiens nous affirment qu'il existe une hiérarchie chez les démons. Pendant la grande tribulation, ce chef des démons reçoit la permission de faire souffrir non seulement l'Égypte, mais tous les pays de la terre. Deuxièmement, l'apôtre Jean peut-être voulu viser Apollon, le dieu grec. Un des symboles d'Apollon est la sauterelle, et la mythologie grecque rapporte qu'il visitait parfois les hommes pour les détruire par la maladie. De plus, l'empereur romain Domitien, un contemporain de l'apôtre, se prenait pour Apollon. L'ironie est de voir les impies qui ont rejeté le seul véritable Dieu se tourner vers les faux dieux qui les font souffrir. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici. Il vient encore deux malheurs après cela. Ce premier malheur arrive pendant la dernière moitié de la grande tribulation et il dure 5 mois. Apparemment, les deux derniers malheurs couvriront le reste de cette période. On nous avertit que les derniers malheurs seront encore plus terribles que les premiers. La prochaine trompette nous prouve que cela n'était pas seulement des paroles en l'air. La sixième trompette. Les anges sont libérés sur l'Euphrate. Lisons Apocalypse, chapitre 9, versets 13 et 14. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Lorsque le sixième ange fait retentir sa trompette, un ordre est donné. Il vient des cornes de l'autel d'or. Rappelons d'abord la fonction de cet autel que nous avons vu précédemment au chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'autel est donc le lieu où sont offertes les prières des saints. Ceux-ci intercèdent auprès de Dieu afin d'obtenir justice et délivrance, et afin qu'il établisse son royaume sur la terre. En plus de faire sonner sa trompette, le sixième ange reçoit l'ordre de libérer quatre anges. Ceux-ci avaient été auparavant liés sur le fleuve Euphrate. La voix du commandant vient des quatre cornes de l'autel d'or. Elle appartient à Jésus-Christ. En ouvrant le septième sceau, les trompettes ont commencé à se faire entendre. Plus tard, nous verrons défiler à leur tour 7 personnes et 7 coupes de colère. On se rappelle de l'importance du chiffre 7 dans l'Apocalypse. Les anges qui étaient retenus prisonniers sont de toute évidence des démons. Leur libération déclenche un raz-de-marée de destruction sur la terre. S'ils étaient tenus à l'écart, je pense que c'était à cause de l'énormité de leurs crimes passés. Le lieu de leur détention est également précisé. Il s'agit du fleuve Euphrate, qui prend son embouchure en Turquie et baigne aussi la Syrie et l'Irak. Évidemment, la situation étant ce qu'elle est au Proche-Orient, certains commentateurs n'ont pas résisté à la tentation d'identifier l'Antéchrist avec certains personnages connus vivant en ces lieux. Au lieu de spéculer sur le présent et le futur, il paraît plus sage de rechercher des informations sur ce cours d'eau dans les récits bibliques. Car, dès le début, le fleuve Euphrate occupe une place de choix dans la Bible. Le jardin d'Éden était situé dans cette région. C'est donc près de cet endroit qu'a été commis le premier péché. L'homme y a également commis son premier meurtre, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Ce lieu a également vu la première guerre. Le déluge a commencé de là, pour se répandre sur toute la terre. La tour de Babel s'est élevée de cet endroit. Pendant la captivité babylonienne, le peuple d'Israël fut contraint de vivre là. En général, Babylone est dans la Bible le centre de l'idolâtrie. Et ici, on nous rapporte que c'est là que le péché connaîtra ses derniers soubresauts pendant le temps de la grande tribulation. L'Orient et l'Occident. D'une certaine manière, l'Euphrate marque la division entre l'Orient et l'Occident. Rudyard Kipling, l'écrivain anglais né en Inde et auteur du livre de la jungle, a déjà affirmé que l'Orient était l'Orient et que l'Occident était l'Occident et que les deux ne se rencontreraient jamais. Cela a peut-être déjà été vrai, mais avec les moyens de transport actuels, il est possible que la forte natalité des pays de l'Orient se déverse massivement en Occident. D'un point de vue économique, des pays comme l'Inde et la Chine sont arrivés à se sortir de la pauvreté d'une manière tout à fait remarquable depuis quelques années. Napoléon a déjà dit « La Chine est un géant endormi. Que Dieu ait pitié de la génération qui la réveillera. » Cette prédiction, vieille de 2 siècles, semble en voie de se réaliser. Avec une force de travail nombreuse et peu exigeante, la Chine et l'Inde développent actuellement un potentiel économique et militaire qui pourrait bientôt rivaliser avec l'Occident. La grande majorité de la population mondiale se trouve de l'autre côté de l'Euphrate. Avec la dénatalité en Occident, le phénomène s'aggrave avec le temps. Depuis Alexandre le Grand, l'homme blanc a généralement fait ce qu'il voulait dans le monde. Le colonialisme est révolu. Mais, assez curieusement, les Asiatiques et les Africains, après avoir jeté les Blancs dehors, ont adopté leur style de vie basé sur le matérialisme et l'acquisition des biens de consommation. L'Orient regarde maintenant l'Occident avec envie. Assisterons-nous bientôt à un retour de pendule où l'Orient viendra coloniser l'Occident? Une chose devient de plus en plus évidente. Bientôt, les intérêts occidentaux et les intérêts orientaux entreront en collision, et le choc pourrait être ressenti à l'échelle planétaire. Au temps de la grande tribulation, le Saint-Esprit ne sera plus là pour restreindre le penchant de l'homme vers le mal, et le pire est à prévoir. Dans son livre, au chapitre 5, le prophète Zacharie identifie Babylone comme le dernier bastion de la fausse religion. C'est là que Satan livrera sa dernière bataille. Mais avant cela, les 4 anges seront libérés. Voyons ce qu'ils feront. La grande cavalerie. Apocalypse, chapitre 9, versets 15 et 16. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Comme les prisonniers des temps modernes, ces 4 anges savaient précisément la date de leur libération. Ils s'étaient préparés pour l'occasion. Encore une fois, si l'auteur emploie autant de précision, c'est parce qu'il veut être lu littéralement. L'année, le mois, le jour et l'heure sont prévus d'avance. Et comment fêteront-ils leur liberté retrouvée? Afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Apparemment, leur détention forcée n'a rien fait pour adoucir leurs mœurs, et ils reprennent là où ils avaient cessé. Au son de la sixième trompette, le tiers de l'humanité sera rayé de la carte. Nous avons déjà assisté à l'extermination d'un premier quart de la population terrestre. Et ici, le tiers des trois quarts restants passe à son tour de vie à trépas. En d'autres mots, depuis le début de la grande tribulation, la moitié des hommes sont morts en l'espace de 4 ou 5 ans. Avec une population mondiale actuelle de plus de 6 milliards d'habitants, plus de 3 milliards mourraient si la grande tribulation arrivait bientôt. En comparaison, la Deuxième Guerre mondiale a tué environ 55 millions de personnes, soit 60 fois moins. On peut difficilement imaginer le désarroi des survivants. Heureusement, ces jours de malheur seront abrégés, selon la promesse du Seigneur Jésus, faite dans Matthieu chapitre 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, nous dit l'Apocalypse. Selon notre méthode de calcul contemporaine, ce chiffre équivaut à 200 millions de soldats. En 2001, l'armée chinoise la plus nombreuse du monde comptait environ 3 millions de soldats. Je doute qu'aujourd'hui il y ait 200 millions de soldats dans le monde entier. Certains diront que le nombre des soldats est moins important que les capacités des armes de destruction massive. Or, ces dernières sont devenues plus performantes avec le temps et rien ne laisse présager un renversement de cette tendance. Dans ce passage, nous assistons à une invasion à grande échelle du monde démoniaque sous la forme visible de sauterelles et sous l'influence invisible des démons. Tout cela poussera le monde à une guerre comme on n'en aura jamais vu. En fait, le monde n'a jamais connu une véritable guerre mondiale où tous les pays prennent part au conflit. Mais pendant la grande tribulation, cette guerre aura lieu. La Bible ne précise pas si ces 200 millions seront tous des êtres humains. Ils pourraient l'être, mais je pense plutôt que ces êtres seront des démons ou des créatures maléfiques. Ils seront libérés après que Satan aura ouvert l'entrée du puits de l'abîme sans fond. La description de ces cavaliers confirme cette impression. Le tiers des hommes exterminés. Lisons Apocalypse, chapitre 9, versets 17 et 18. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Une fois de plus, la ressemblance avec nos armes modernes est tentante. Ici, il s'agirait de chars d'assaut. La Première Guerre mondiale était une guerre de tranchées, relativement immobile. 20 ans plus tard, au début de la Deuxième Guerre mondiale, les forces de l'Axe ont remporté des victoires avec l'utilisation d'armes peu employées jusqu'ici, comme le char d'assaut. Ce type d'arme donnait beaucoup plus de mobilité aux forces en présence. Mais encore une fois, si les méthodes de guerre avaient tellement changé en l'espace de seulement 20 ans, quelle idée pouvons-nous nous faire de la guerre au temps de la grande tribulation? Nous parlons d'un temps situé dans un futur indéfini. Cela pourrait être pour l'an prochain ou dans plusieurs siècles. Personne ne le sait, et il faut se méfier d'être dogmatique lorsque la Bible n'offre aucune précision. Peut-être qu'au moment de la grande tribulation, les armées auront des armes plus raffinées que nos chars d'assaut modernes. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Ces étranges cavaliers sont revêtus de cuirasses aux couleurs frappantes, le feu est d'un rouge éclatant. L'hyacinthe ressemble à la fleur portant le même nom. Il s'agit d'un bleu foncé. Le soufre se rapproche du jaune. Pendant longtemps, le cheval a été utilisé pour faire la guerre.
À ce sujet, vous pouvez lire entre autres Job, chapitre 39, versets 19 à 25.
Mais, au temps de la grande tribulation, d'autres créatures, venant du séjour des morts, feront la guerre à l'humanité. Des créatures qui n'obéissent pas aux lois naturelles.
Elles sont probablement des démons, ou alors elles sont contrôlées par des démons.
Et l'Apocalypse nous en fait une description littérale. Dans son commentaire sur ce livre, William R. Newell nous fait cette fine observation.
« Croyez, et vous n'aurez plus tellement besoin d'explications. Beaucoup lisent l'Apocalypse en pensant que ce livre est difficile à comprendre et impossible à interpréter.
Mais le problème ne réside pas dans le livre. Il se situe au niveau des hommes. Si seulement ils étaient prêts à croire en le lisant, il deviendrait clair pour eux.
Dans ce passage, nous pouvons voir que des forces démoniaques sont à l'œuvre pendant cette période.
Les trois plaies mentionnées ici sont des plaies littérales.
Le feu est vraiment du feu.
La fumée est réellement de la fumée. Et le soufre est littéralement du soufre.
Au temps de Sodome et Gomorre, le jugement de Dieu sur ces villes était littéral.
Et au temps de la grande tribulation, l'immoralité sera encore plus grande dans le monde que chez Sodome et Gomorre.
Aujourd'hui même, des gens se livrent à des pratiques immorales au nom de la liberté d'expression.
Mais Dieu ne permettra jamais à des créatures immorales de rester avec lui dans son ciel pour l'éternité.
Jusqu'ici, le tiers de la nature avait été touché par le jugement de Dieu.
De plus, à l'ouverture du quatrième sceau, un quart des hommes avait été tués,
et ici, un autre tiers des survivants meurt.
Pendant longtemps, une telle décimation de la population humaine en aussi peu de temps paraissait totalement impossible.
Mais depuis, l'explosion de bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki a démontré jusqu'où la furie destructrice de l'homme pouvait aller.
Alors, imaginez comment les choses iront lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre pour nous restreindre. Depuis une cinquantaine d'années, les hommes utilisent un langage encore plus effrayant que celui de l'Apocalypse. On parle maintenant de la complète extermination de toutes les espèces animales et végétales vivant sur la terre.
Heureusement, le Seigneur Jésus nous a déjà affirmé qu'il ne le permettrait pas.
Et si ces jours en étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais au temps de la grande tribulation, les vivants envieront les morts.
Les hommes désireront mettre fin à leurs jours, mais sans en être capables.
Terminons notre lecture pour aujourd'hui avec Apocalypse chapitre 9, verset 19.
« Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue.
Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal.
Ces chevaux sont inconnus du monde naturel où nous vivons.
Ils peuvent tuer avec leur bouche,
et leur queue est semblable à des serpents ayant des têtes.
Et ces serpents serviront aussi à détruire l'humanité. »
Oh, chers amis, il est encore temps d'être épargnés de ces fléaux, de ces grandes catastrophes, de ces jugements de Dieu.
Comment?
En vous rendant par la foi là où le jugement de Dieu est déjà tombé.
À la croix, Jésus a subi à votre place le jugement que méritaient vos péchés.
Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour vous.
À vous de le reconnaître et de saisir par la foi ce salut de votre âme pour l'éternité.
Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 9, verset 20 au chapitre 10, verset 1. Bonne et agréable lecture.
Merci, Régent. J'ai vraiment aimé le commentaire de William R. Newell que tu nous as mentionné concernant le fait que le livre de l'Apocalypse semble si difficile à comprendre et impossible à interpréter pour plusieurs. Il a dit simplement ceci, « Croyez, et vous n'aurez plus tellement besoin d'explications. » Donc, mes amis, on a bien vu aujourd'hui que le problème ne réside pas dans le livre, mais au niveau des hommes. Je pense que dans notre nature humaine, on est porté à se compliquer la vie. Pour ma part, mes amis, je peux dire que je ne comprends pas tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. mais je comprends ce que Dieu veut bien que je comprenne. Et je peux dire que j'en comprends encore plus depuis qu'on a commencé l'étude de ce livre. Comme Régent l'a mentionné, on a juste à croire en le lisant. Et en plus, Dieu nous donne des enseignants, comme J. Vernon McGee et Régent Joly, pour nous aider à approfondir ce qu'on a besoin de comprendre pour mieux connaître notre Dieu ainsi que sa volonté à notre égard. Quelle richesse Dieu nous donne dans sa parole, dans la Bible. Et toi, mon ami, possèdes-tu une Bible? La lis-tu chaque jour? J'aimerais t'encourager à le faire. Il n'y a aucun livre sur cette terre qui possède autant de richesses pour la vie des humains que la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, j'aimerais t'encourager à bien écouter les coordonnées qu'on donne à la fin de l'émission. Tu pourras appeler nos téléphonistes qui se feront plaisir de te dire comment faire pour en obtenir une, ou au moins un Nouveau Testament. Et si tu es un croyant, je suis pas mal certaine que tu as déjà une Bible et que tu la lis quotidiennement. Mais si tu n'as pas encore fait le pas de placer ta confiance en Jésus seul pour recevoir gratuitement la vie éternelle, aujourd'hui, en ce moment même, le Seigneur t'en donne l'opportunité. N'aimerais-tu pas savoir que tu es assuré d'avoir une place au ciel pour l'éternité, que tes péchés sont pardonnés, que tu es en sécurité pour toujours? Eh bien, Jésus a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux avoir Dieu pour Père, mon ami, tu dois avoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il a tout payé en mourant sur la croix pour que tu puisses devenir un enfant de Dieu. Au premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, si tu crois au nom de Jésus, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme pour venir payer la dette de ton péché en mourant sur la croix, tu n'as qu'à reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Alors repens-toi. La repentance, c'est un changement de direction à l'égard du péché qui fait qu'on veut plus le commettre jamais. On veut tout faire pour s'en éloigner. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Jésus maintenant de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et tu seras sauvé, sauvé de la condamnation qu'on mérite tous pour nos péchés. Et tu vas marcher dans la joie. Tu vas être certain que le jour où tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu vas vivre avec Dieu éternellement. Alors, on mérite pas ce salut. On mérite réellement le châtiment éternel. Le péché nous a éloignés de Dieu. Mais Jésus veut t'approcher de Dieu. Il veut faire le pont entre toi et son Père maintenant. Passe sur ce pont. Étends-toi sur l'amour de Jésus et reçois-le comme sauveur.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.